Bienvenue sur Radio Galaxy et plus précisément, c'est notre rendez-vous mensuel avec Christian Caillol pour découvrir une région de France en VTT. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, quelle est notre destination aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous amène, là il y a de l'espace. Et le tourisme de masse, il est pas tellement existant. Alors, on a un plateau où il y a de l'eau omniprésente et qui va sillonner des landes et des bruyères. Et puis, entre les collines et les vallons, un grand vallon qui flirte avec le granit. Et voici en quelques mots la description de notre destination. C'est la Creuse profonde. Avec un peu de VTT, bien sûr.
Un peu beaucoup sur les vidéos.
Un peu de plus en plus. Ah oui, je m'applique.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on rappelle, il y a une vidéo. C'est laquelle ?
La vidéo s'appelle Forêt, Landes et Guéret. Vous l'avez sur le site Radio Galaxy. Et puis, mon site perso, randovttvideo.free.fr. Voilà. Alors, là, si vous aimez les belles pierres, mais pas celles qu'on porte autour du cou, vous serez comblé. Et un jour, d'ailleurs, il me faudra faire le tour en détail de tous ces chaos, des blocs aux formes étranges, souvent évoqués dans des vidéos précédentes. En voici cependant quelques-uns. Je pense à celui de, bien sûr, du Cidobre, la Crouzette, connu de tous dans notre région, c'est notre patrimoine. Et le fameux roc de Loye, Père Clabarde, avec ses 780 tonnes, et qui en est le symbole. En Aveyron, on a aussi parlé, mais qui se souvient, du cep de Père Levade, soi-disant un dolmen, lui aussi associé, comme beaucoup, à une légende. En faire le tour en silence, en pensant très fort, et le vœu sera exaucé. Moins connu, les rochers de Fola, à 2 km de Marcolès. C'est pas plus connu que Fola d'ailleurs, je sais pas pourquoi je cite Marcolès. Dans le Cantal, il y a aussi un très beau cep. Ça m'a attiré d'aller voir ces champignons qui se découpent bizarrement. Un beau chapeau avec le pied en équilibre. C'est quand même bizarre ce que fait la nature.
Ah, elle est belle la nature.
Alors là, c'est un très beau cep de plusieurs tonnes. Et le chaos de Wellgott, dans le Finistère. Alors ici, on ne parle pas de cèpe, mais de champignons de Paris. Il est gigantesque, Voilà. Et puis, les rocheux de Cieux au Mont-Blanc, dans le Limousin. Certaines pierres s'ouvrent pendant la nuit de Noël. D'autres seraient dotées d'une âme et qui changent de place ou qui font tomber la pluie. Ici, des pierres à cupules, à sacrifice, à bascule. Et toujours, le fameux cèpe. Mais alors celui-là, le cèpe de Cieux, il n'est pas facile à trouver. Ou encore, le chaos du carnaval du Chon, la perle du Morvan, avec un mammouth, le nez du chien, les griffes du diable, et la pierre tremblante, comme partout. On peut ajouter le chaos de Pierre Pamol, aux extrémités du monde du forêt, et à tout cet inventaire non exhaustif, les fabuleux rochers en granit rose de Ploumanac. Ah, j'allais oublier, les Chirons, en Gâtine, on en a parlé de ça, du côté de Partonnet. Des boules de granit du côté de l'Arjas qui seraient tombées de la poche de Gargantua. On retient surtout le rocher branlant qui servait de pierre de jugement, en particulier réservée aux femmes adultères. Elle devait se justifier en faisant bouger la pierre. Réalité ou légende, difficile de répondre. Certainement, une part de vérité.
Comme dans toute légende, il y a toujours une part de vérité.
On pourrait ajouter les pierres en équilibre du mont Lozère, Trégastel en Bretagne, et ceux de Fontainebleau, ça a été un des sujets d'une émission précédente. Stop, on va arrêter là, un jour j'en ferai le tour de tout ça. Beaucoup moins connu, par contre, et là ça nous intéresse parce que c'est dans notre secteur, voici aujourd'hui, les pierres jaumâtres. Cette fois, sur la commune de Toul-Sainte-Croix. Des pains de sucre, pierres en équilibre, le berceau du diable, une des plus connues, imposante, 25 mètres de long, aussi appelée Hôtel des sacrifices gaulois. La plus curieuse est la bascule, ou pierre de Teutate. Teutate, Toutatis, Astérix, vous vous rappelez? Un dieu celte, des arts et des routes. Une quarantaine de ces cailloux, géants, en équilibre improbable, nombreux, sont apparentés aux dieux du tonnerre ou de la guerre. Une légende dit que le roi Arthur, le chef des Celtes, venait ici rencontrer la fille de Darius, le chef des druides. Elle lui donna une fille, Tula, qui devait épouser le plus vaillant des chevaliers celtes. Mais lorsqu'elle fut en âge de se marier, ses fiers guerriers s'entretuèrent pour elle. les dieux déclenchèrent alors un cataclysme pour arrêter cette hécatombe. Une princesse sans humanité qui laissait les hommes se tuer pour elle. Le ciel s'entr'ouvrit en les engloutissant tous. Une légende dit aussi qu'il reste un trésor caché sous la pierre dénommé Hésus, dieu de la guerre. Les pierres jaumâtres viendraient de Haumâtre. Les mâtres, c'était des divinités féminines, celtes, dédiées à la féminité et à la fécondité. Alors ces mastodontes ont de tout temps attisé l'imagination des hommes, et le mystère reste entier, même si l'origine naturelle est quand même probable. Nous n'en avons pas fini encore avec les pierres. Voici celle aux neuf gradins, à Soubrebost. Incontestablement, celle-là, elle est faite de main d'homme. Elle reste encore à ce jour un mystère archéologique. Elle a une hauteur de 3 mètres, un escalier taillé de 9 marches, où on remarque, chaque côté sur les marches, des croix païennes qui permettent d'atteindre la plateforme et qui est creusée de 2 bassins remplis d'eau reliés entre eux. Tout ça, on le voit sur ma vidéo. Une eau probablement guérisseuse, même, c'est certain.
Obligé.
Obligatoirement. On y portait les enfants atteints de teigne ou de toute autre maladie du cuir chevelu. Bien entendu, les dévotions devaient être faites sans être vues de personnes pour guérir, se marier, être fertile, soit en jetant des épingles, alors je ne sais pas pourquoi, des pièces de monnaie ou même en buvant de l'eau. Encore au début du XXe siècle, certains laissaient sur la plateforme, en échange de la santé, une coiffe, une chemise ou un linge du malade. Changeons un petit peu, mais pas bien loin. Allons à la nécropole romaine des Sagnes, à Pontarion. En 1904, un paysan mit à jour un bloc de granit rempli de cendres. Depuis, une dizaine d'autres du même genre, certains cylindriques, d'autres cubiques, ont été découverts. Dans les années 80, la fouille du site compléta de 296 sculptures à incinération, datées entre 150 et 300 après Jésus-Christ. Le défunt était placé sur un bûcher avec ses objets personnels, et les résidus de la crémation étaient placés dans ses coffres de pierre. Le site est libre d'accès en bord de route, alors garez-vous et faites un petit tour. Changeons un petit peu maintenant, toujours des pierres. Les rochers de Jupille, on est à Le Bourdem. Une petite marche, environ 1 km, qui vous conduira vers ce site remarquable. Un parcours en forêt, en direction de la Creuse, suivi par une confortable progression sur des passerelles, et vous longez des rochers qui plongent dans l'eau d'un lac de barrage. Attention, c'est un lieu de nidification du faucon pèlerin qui est interdit de fréquenter de février à juin. C'est aussi un spot d'escalade. Enfin, si, c'est pour toi, ça. Hein.
Oui, de ma jeunesse.
Et maintenant, une ancienne carrière, à Maupuy. Sur cette lande stérile d'ajoncs, de bruyères et de genêts, les maigres troupeaux de vaches, de brebis et de chèvres broutaient entre des affleurements granitiques. L'arrivée du chemin de fer en 1860 va lancer l'exploitation du granit à Maupuy d'une façon plus ou moins sauvage. Il faudra attendre 1912 pour voir un véritable fonctionnement industriel avec une main-d'œuvre au début locale, mais par la suite qui touchera les régions voisines et même étrangères. Ici seront taillés des pavés de granit bleu, très durs, utilisés pour les voies, les quais et les gares du métro parisien. Le pavement de chaussée, des bordures de trottoirs. Ça a donné du travail à 300 ouvriers à peu près en 1933. Et l'activité va cesser progressivement entre 1960 et 1990. Une des particularités de cette carrière est que toutes les installations sont restées en place et à la visite de tout le monde et c'est gratuit. Maintenant, voici certainement les pierres les plus célèbres de la Creuse. Un pont, le pont romain à Gentius, Pigerolles. C'est certainement le site le plus connu. Alors, on est loin de Gavarnie ou du Mont-Saint-Michel et il n'y a pas l'influence. De l'unique arche de bloc de granit, il ne subsiste que cette voûte en plein cintre qui enjambe le petit ruisseau du Torion au milieu d'un bout de lande à bruyère. Personne ne connaît la date de sa construction. On le dit romain Il pourrait être du 12e comme du 18e. Il était sur une voie pavée du Limousin que l'on aperçoit quand même de part et d'autre. Alors, ces merveilleux prestiges dans cette tourbière superbe, parmi les mousses et les bruyères, en fait un site exceptionnel, symbole de la Creuse, bien apprécié par les mariés pour la photo, un chef-d'œuvre pour les rêveurs et aussi les photographes. Voici maintenant des pierres très utiles. Les planches de Verrières, entre le Masfort et Saint-Martin-Château, des grandes localités que tout le monde trouvera sur la carte. Les planches, c'est ainsi qu'on appelle en Creuse, sur le plateau des Mille Vaches, ces petits ponts qui permettent de franchir de nombreux ruisseaux. Pourtant, il n'y a aucune planche. C'est juste des pierres, des grosses pierres, posées sur des piles. Elles ont un charme fou. Mille Vaches, le nom du plateau, ça veut dire mille sources. Et lorsqu'on observe la nature, on s'en rend vite compte. Nombre de ces ponts ne sont pas bien larges. Alors pas besoin d'une grosse construction. Des aménagements simples suffisent pour traverser en file indienne, formés par une ou plusieurs dalles. Autour de Saint-Martin-Château, on peut admirer pas moins de 7 ponts, planches, encore en bon état. Ici, un nouveau challenge pour les peintres et les photographes. Maintenant, quelque chose d'unique. Un village de pierre taillée. C'est le village de Masgaud. Il est au milieu de nulle part. Il est au milieu, là où le granit affleure, un peu partout, et qui cache une bien curieuse particularité. Il voit la naissance, ce village, de François Michaud en 1810. Ce sera un paysan, mais il apprendra tout seul le travail de maçon et de tailleur de pierre. Et là, c'est un champion. À partir de 1850, il se lance dans l'ornementation de sa maison et aussi du village tout entier, à travers sculptures et gravures étonnantes. Les éléments de sa vie, les idées politiques et spirituelles l'inspirent. Il représente des animaux imaginaires, des femmes nues, des figures politiques, dans un style populaire dit « art naïf », parfois osé et contradictoire. Ses œuvres, à l'époque, choquent et étonnent. D'un tempérament solitaire et secret, François Michaud meurt en 1890. Ah, ses œuvres seront oubliées et vont disparaître dans la végétation. Fort heureusement, elles ont été redécouvertes et ses œuvres sont visibles dans deux maisons où il a habité, mais aussi au hasard des rues, dans tout le village qui est ouvert gratuitement malgré les occupants, puisque le village est encore un petit peu habité. Sa maison, elle est transformée en musée de tradition populaire, mettant en scène la vie de ce village au XIXe siècle. Masgaud, le village sculpté, à ne pas manquer. D'autres pierres, décidément, comme je l'ai dit, hein, si vous aimez ça, tant mieux, sinon...
Tout faux, sinon.
Tout faux. Cette fois, c'est l'oppidum de Puy-Gaudy, sur la commune de Sainte-Ferre. Sur la hauteur de Guéret, les hommes se sont installés sur le Puy-Gaudy, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. C'est un remarquable site de défense, âgé de 5000 ans. En cherchant bien, vous découvrirez les vestiges d'une ville gallo-romaine fortifiée, d'un moulin médiéval, d'un sanctuaire antique, les restes de sarcophages et de nombreuses pierres de jet. C'est le plus grand oppidum de la Creuse, un véritable terrain de jeu pour les passionnés d'histoire. À l'extrémité, la vue porte sur l'ensemble de la chaîne des puits, à 360 degrés. Et puis la pierre du trésor. Alors, un chaos granitique en forêt de Chabrières, renfermant un trésor. La nuit de Noël, au premier coup de minuit, la pierre se soulève. Au dernier coup, elle retombe. Si vous êtes assez rapide, vous aurez peut-être la chance de prendre le trésor. Un autre trésor de Puy-Gaudy. En 52, avant Jésus-Christ, les légions romaines s'approchent. Réunies sur le puits, les druides doivent impérativement mettre leur magie au service de la défense des populations. Ils doivent trouver quelque chose, une nourriture qui leur donnera de la force de se battre. L'un d'eux s'écrie « J'ai trouvé, voici le bâton de la victoire. Nous allons le manger. » Et il sort un beau saucisson en disant « Ce bâton nous rendra invincibles. » Je ris, je parle parce que je te vois sourire.
Tu nous fais la pub de quoi là?
Alors, les Gaulois remplissent leur sac de bâtons de Gaudy et partent à Gergovie. Tout le monde connaît la suite. Alors, vous trouverez à la charcuterie du village de Sainte-Ferre. Vous le trouverez. Il paraît que le patron a trouvé le trésor sous la pierre. C'était la fameuse recette du bâton de Gaudy.
D'accord, je comprends mieux maintenant.
T'as compris?
Voilà, c'est la spécialité de là-bas.
Voilà. Voilà. Ça fait le lien entre la pierre avec le trésor.
Et la gastronomie locale.
Le bâton de Gaudi. Maintenant, une merveille. La presqu'île de Crozan, à Sainte-Plantaire. Crozan, c'est un des sites les plus connus du Val-de-Creuse. Peut-être le plus emblématique. Une précision, on a changé de département. Cette merveille, elle est indrienne. On est dans l'Indre. Pourtant, on est vraiment à la limite. Donc, faites un petit détour. Au centre d'un méandre remarquable, le regard est attiré par une forteresse historique. Des vestiges du château médiéval du XIIe occupent les perrons rocheux à la confluence de la Creuse et de la Sédelle. Une propriété des Lusignans, récupérée par héritage par Philippe le Bel, qui deviendra l'apanage du prince, puis entrera dans le domaine royal. Les constructions d'époque sont encore nombreuses, mais dans un état de délabrement assez avancé. Sur la rive opposée, le panorama, depuis les rochers des Fileuses, a été le point de vue de nombreux photographes et peintres. Si Georges Sand a été la précurseuse, entraînant Chopin dans ses excursions, par la suite, Claude Monet a fait ici plusieurs séjours, immortalisant les ruines de la forteresse et bien entendu le rocher des Fileuses. Depuis, cette vallée de la Creuse porte le nom de vallée des peintres. Le point de vue incontournable, c'est le rocher des Fileuses. La légende raconte le défi lancé entre jeunes filles. Elles fileraient le plus rapidement possible un brin de laine, celle dont le fuseau atteindrait l'eau 80 mètres plus bas, aurait peut-être la chance d'épouser le fils du seigneur. Pour terminer, voici un petit patrimoine local. Une fontaine, un vieux tilleul, une chapelle. Au Moyen-Âge, l'eau de la fontaine du Mas Saint-Jean, à Saint-Sulpice-le-Dunois, faisait des miracles sur les enfants qui tardaient à marcher. La renommée est telle qu'une chapelle fut construite pour concilier la magie et la croyance. Jeanne d'Arc, sur l'influence de Jean de Brosse, compagnon d'armes, vient lever des troupes auprès des seigneurs du Berry et de la Marche en 1430. Elle fait un arrêt à Crozan et aurait soi-disant prié à la chapelle du Mas Saint-Jean. Seul le tilleul pourrait le confirmer, mais il est beaucoup trop vieux. Lui non plus ne s'en souvient pas. Il aurait 600 ans. Un arbre remarquable de par son âge et son port. Mais même sur la circonférence, les chiffres varient. Entre 12 et 7 mètres. Bon, il suffit de sortir le décamètre.
Tout simplement.
Mais oui, on n'y a pas pensé. On s'y mariait dessous. Un signe d'amour et de fidélité. Pour terminer, quelques mots sur ma rando autour de Guéret. Au cœur de la Creuse, je vous incite vraiment à partir sur le nombreux chemin, à la découverte d'une terre authentique et préservée, entre lacs, forêts, là où les rivières limpides sont appréciées par les pêcheurs, où les villages conservent le charme, la rudesse et la beauté simple d'autrefois. Vous roulerez sur la trace des maçons de la Creuse.
Et il y a des raidillons, il suffit de voir ta vidéo.
Ah ben oui, comme il y a un plateau, c'est sûr, mais il est entrecoupé de vallées.
Voilà, donc bon courage. Exactement. Donc allez voir quand même les images sur la vidéo.
Exactement.
Qu'on rappelle.
Maintenant foncez sur mon site, Rando VTT Vidéo, ou encore le site Radio Galaxie, voir les images de toutes ces merveilles et de celles de la randonnée à VTT. Et puis, comme toujours, je vais piquer une aquarelle à Nadine,
voilà,
pour finir cette randonnée, et ce sera un loup, le loup de Chabrière.
On voit effectivement sur ta vidéo pas mal de loups et le nourrissage du loup aussi en fait. C'est dans un parc ça.
Oui, c'est un parc. On a les loups en liberté. On les voit au nourrissage.
D'accord.
Voilà. Et c'est un pays de loups. Mais tout ça, c'est une autre histoire.
Tout à fait.
Alors, le mois prochain, je vous invite à une rando à l'aube. En attendant, bougez, mais bougez en France.
Tout à fait.
Allez, à bientôt.
Merci Christian, au mois prochain.
Au mois prochain.